Bonjour, vous allez bien? En tout cas, moi, c'est parfait. Je suis vraiment, vraiment contente d'être là. Je suis vraiment contente qu'on m'ait invitée. Donc, j'espère qu'on va passer un bon moment ensemble. Donc, je me présente, Anissa Amadou. Je suis sophrologue formatrice et dirigeante d'un centre de formation et de bilan de compétences. Je vais commencer par présenter la sophrologie. Est-ce que vous savez ce que c'est la sophrologie? Non? Pour ce, donc, je vais vous donner une définition. La sophrologie, c'est une science humaine qui va vous permettre d'harmoniser la tête et le corps. Un petit exemple. Quand on vous parle, je vous parle, c'est la tête qui entend. On est d'accord, c'est la tête qui comprend. C'est pas le genou. C'est ça? Et pourtant, en fonction de ce que je vais vous dire, vous allez peut-être avoir mal au ventre. Peut-être même avoir les boules, comme on dit. Donc il va y avoir une conséquence entre ce que je vais entendre et ce que mon corps va gérer. Et mon travail, donc j'ai eu un cabinet pendant plusieurs années, mon travail c'était d'aider les personnes, consciemment, à pouvoir gérer en fait tout ce qu'ils entendaient, dans le corps, et qu'ils puissent mieux le vivre. Voilà pour mon travail. Et je me suis spécialisée dans l'emploi. Donc l'emploi, donc l'outil sophrologie, permet de mobiliser les ressources et de faire en sorte qu'on se connaisse mieux. Voilà. Donc aujourd'hui, je vous présente sur le thème miroir-miroir, comment suis-je? On va faire un petit test technique. Parfait. Voilà. Alors pendant mon intervention, si vous avez une question, si vous demandez quelque chose ou c'est pas clair, vous me faites un petit signe. Ça vous va? On est entre nous et j'aimerais vous emmener en voyage dans ce voyage dans le pays des miroirs. Qui a un miroir? Super. Donc, vous avez déjà peut-être expérimenté notre voyage. Mais là, vous allez le voir différemment. Alors, donc, mon miroir me pose des questions. Miroir, miroir, comment suis-je aujourd'hui? Alors, pour savoir comment je suis aujourd'hui, je dois me comparer quand même à hier. On est obligé de se comparer à quelque chose. Hier, et imaginez ce que je peux être demain. Et le miroir va me renvoyer ma situation, c'est-à-dire mon aspect extérieur et aussi mon aspect intérieur. Il faut que j'apprenne à l'entendre, il faut que j'apprenne à le lire. Extérieur, j'entends par là mon physique, ma santé, trace que je peux avoir. Et intérieur, ça va être plus mon état d'esprit, mes valeurs. Donc les deux à la fois. Quand elles sont en harmonie, le miroir envoie une autre image. Quand il y a un décalage, c'est encore une autre image. Donc pendant ma conférence, on va voir au fur et à mesure comment est-ce qu'on peut lire, comment est-ce qu'on peut interpréter ça, et surtout comment on peut se préserver. Alors, pour savoir ce que me dit mon miroir, je dois savoir l'écouter. Pour être dans les meilleures dispositions, je dois rester en bonne santé, parce que le miroir me renvoie cet aspect extérieur. Mon image change aussi tout au long de ma vie. Donc la thématique était aussi l'estime de soi, l'image que l'on a de nous, tout au long de notre vie. Donc comment faire tout au long de notre vie? Regarder notre miroir, être en harmonie? Il y a plusieurs facteurs. Le miroir nous renverra à notre image par rapport à nos besoins. Par rapport à nos besoins, ce dont on a besoin. Ça va jusque-là? Je vais me décaler. Nos besoins, donc Monsieur Maslow, c'est un psychologue, il a réuni tous nos besoins dans une petite pyramide. Alors ici, on a le premier besoin physiologique, c'est-à-dire je dois manger, boire, dormir, respirer. Ensuite, la sécurité, donc je dois pouvoir me vêtir, avoir un toit sur la tête. Besoin d'appartenance, j'ai besoin d'amour, d'appartenir à un groupe, à une famille. L'estime, être reconnu pour ce que je fais. Et l'accomplissement, pouvoir faire ce dont j'ai envie et que ça soit reconnu. Tout au long de notre vie, on va passer par ces filtres-là. Et en fonction de leur satisfaction, notre miroir va nous parler. Alors, puisque c'est important d'être en harmonie avec ce que nous renvoie notre miroir, nos côtés externes, donc il faut savoir comment rester en bonne santé tout au long de notre vie. Je vais commencer par une définition. C'est très important les définitions, parce que ça ressemble à des racines. Si vous plantez un bout de bois, il n'y a pas de fruit, on est d'accord. Donc un arbre sans racines ne donne pas de fruit. Mais quand il y a les racines, il émerge quelque chose de différent, parce qu'on sait ce que ça veut dire. L'Organisation mondiale de la santé, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Être en bonne santé. Ça veut dire, on n'a pas de maladie, le scanner est bon, la prise de sang est bonne, physiquement, ça va, mais en plus de ça, on a un bien-être physique, mental et social. Ça veut dire non seulement tout va bien au scanner, mais en plus de ça, on est entouré, on a une vie sociale. Parce qu'on connaît certainement des personnes qui, ça va bien sur le scanner. Ils ont une maison, ils ont un toit, ils ont à manger, ça va. Pourtant, ils ne sont pas bien. Tout simplement parce qu'au niveau social, plus de contact avec la famille, plus de contact avec les amis. Et ça les rend malades, ils ne sont pas en bonne santé. Et dans le miroir, mon miroir m'en parle, ça. Il m'en parle. Donc bien sûr, quand on l'écoute, on sait les choses qui nous manquent. Donc par rapport à cette fameuse pyramide, donc tout au long de notre vie, il faut se rappeler, voilà, les besoins que je dois satisfaire. Maintenant, je sais ce que c'est être en bonne santé. Je dois savoir ce que c'est vieillir. Vieillir, c'est un phénomène naturel. Alors que dans notre société, on essaie de mettre le frein à main sur le fait de vieillir, mais vieillir, c'est naturel. Et donc, notre miroir va nous renvoyer ça. Vieillir, c'est un affaiblissement naturel et c'est le fait de devenir vieux, ensemble des phénomènes qui marquent l'évolution d'un organisme vers sa fin. Donc il y a un début, il y a une fin. C'est ça, vieillir. Mais avant tout, c'est naturel. Donc non seulement c'est naturel, on ne peut pas l'arrêter. Donc je sais que j'ai un temps pour vivre. Et notre société, c'est vrai qu'aujourd'hui, stoppe le temps. Donc on a un petit décalage, on est lié au temps. Notre physiologie, nous en tant qu'être humain, on est lié au temps. On a besoin de temps pour une grossesse, on a besoin de temps une fois que l'enfant naît pour tenir sa tête, on a besoin de temps encore pour que les dents sortent, on est lié au temps. Et notre société, c'est vrai, veut accélérer le temps sur certaines choses. On envoie un message tout de suite, il faut une réponse. Ou alors veut bloquer le temps sur le visage, sur le corps. Donc plus on est en harmonie avec nous, c'est-à-dire notre mode d'emploi, notre corps a un mode d'emploi, plus on est en harmonie avec ce mode d'emploi, mieux notre miroir nous racontera de belles choses à notre sujet. Ça va jusque-là ? Parfait. Le constat. Donc maintenant je sais ce que c'est être en bonne santé. Je sais que vieillir c'est naturel. Je vais constater. Alors le constat, un petit constat démographique. En France, il y a plus de personnes qui ont plus de 60 ans que moins de 20 ans. Donc c'est une bonne chose. C'est que la médecine avance, qu'on a une meilleure qualité de vie. Donc, si on veut pérenniser notre qualité de vie, il faut suivre notre mode d'emploi. Donc en 2003, l'État nous a mis en place le plan Bien Vieillir, et ça c'est une chance que nous avons par rapport à d'autres pays, donc en profiter. Des préventions. Mieux on prévoit, prévenir plutôt que guérir. Alors, la jeunesse, on est tous passés par là. Par contre, on n'est pas tous égaux devant cette jeunesse. Tout simplement parce que c'est un capital qu'on a à la naissance. C'est génétique, bien souvent. Mais par contre, c'est comme un compte en banque. On a une certaine somme. Au fur et à mesure de nos charges, ça va partir. Mais en fonction de notre qualité de vie, ou alors des maladies, il y a certaines maladies qui vont accélérer en fait, ce capital jeunesse, on va plus ou moins dépenser assez rapidement. Donc qu'est-ce qui va faire que je vais dépenser rapidement ? Alors, donc pour résumer sur le bien vieillir, ça veut dire soit on fait notre âge, ou soit alors on fait moins que notre âge. C'est ça, bien vieillir. Alors, un petit problème avec la... Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qui va faire qu'on va accélérer en fait ce vieillissement ? C'est notre mode de vie, la qualité de notre mode de vie. Elle va pas être adaptée à notre mode d'emploi. On rajoute, donc je vous ai dit que vieillir, c'était naturel. Il faut savoir quelque chose, comme c'est naturel, on ne peut pas lutter. On peut accompagner, on peut prévenir, mais on ne peut pas accélérer, on ne peut pas stopper. On a juste un indicateur qui dit qu'à partir de 30 ans, On a une pathologie qui s'appelle la sarcopénie qui nous réduit nos facultés musculaires, qui nous réduit nos facultés. C'est normal, c'est normal. Tout ce qui est normal doit être accepté, ça fait partie de notre mode d'emploi. On est d'accord ? Si on a un mode d'emploi sur un appareil, pour bien s'en servir, il faut suivre la notice. C'est ça ? Si on ne suit pas la notice, l'appareil ne donnera pas ce pour quoi on l'a acheté. C'est la même chose pour nous, on a une notice. Donc on sait qu'à partir d'un certain âge, nos facultés physiques diminuent. On n'a pas la même résistance, ou alors on ne monte pas les escaliers, on ne fait pas les mêmes soirées à 15-20 ans qu'à 40, qu'à 50, qu'à 60. N'est-ce pas ? C'est normal. Et ça commence à partir de l'âge de 30 ans. Le but, notre miroir, quand il nous parle, c'est de se préserver. C'est qu'il nous renvoie une image qui nous plaît. Et pour ça, on doit le travailler dans la vie de tous les jours. Donc savoir qu'est-ce qui fait un vieillissement précoce. Vieillissement précoce, il est causé par pas mal de choses. Donc là, ça nous renvoie à notre autre diapositive qui disait que notre capital jeunesse pouvait être très facilement dilapidé si on n'a pas un mode de vie adapté. Ou autrement, il pouvait être pérennisé tout au long de la vie si on fait ce qu'il faut. Donc, on va regarder qu'est-ce qui peut accélérer ce vieillissement. Et ça, c'est valable pour tous les âges. Premier lieu, le stress. Qui a déjà été stressé ? Très bien. Un mode de vie inadapté à nos besoins. Une alimentation non équilibrée et reclus social. Et on va revenir sur notre fameuse pyramide des besoins qu'on avait au début. Alors, on reprend le stress. Le stress, à la base, c'est un phénomène naturel. Donc c'est l'ensemble de phénomènes biologiques qui va permettre aux personnes de passer à l'action. Ici, là, je suis debout, je tiens le micro, je bouge, mon corps met en place tout un système, envoie des substances pour que je puisse m'adapter à la situation. Ça reste naturel. Par contre, mal géré peut causer de graves maladies, des pathologies. Et donc là, on entend là dans le sens stress, où quand il y a une situation, on n'est plus capable d'y faire face. Il y a une règle sur le stress, quand elle est naturelle, pour gérer le stress et qu'il soit votre ami, c'est de suivre la notice, le mode d'emploi. Alors, voici un épisode de stress normal. On en a tous besoin et on est fait aussi pour ça. Ici, vous avez, il y a trois phases. Action, activation, désamorçage. L'action. Il arrive un événement, une journée, par l'association intergénérationnelle du Rhône. Il a fallu la préparer, cette journée. N'est-ce pas ? Il a fallu appeler plein d'intervenants, attendre des réponses. Ensuite, la période d'activation, là où il a fallu mettre toute l'organisation en place. Donc là, notre corps nous envoie des substances chimiques pour pouvoir agir. Et ensuite, une fois que tout est terminé, donc la pression redescend petit à petit. Ça fait penser un petit peu à une course. Vous avez déjà vu des coureurs qui font le 100 mètres ? Dès qu'ils passent la ligne d'arrivée, donc au début, ils se préparent mentalement. Donc là, leur corps commence à sécréter en fait toutes les hormones, le cortisol nécessaire pour pouvoir faire leur course. Le coup de feu du départ retentit et là, ils sont dans leur action. Dès qu'ils passent la ligne d'arrivée, ça y est. Ensuite, ils ont le désamorçage. Mais je ne sais pas si vous avez déjà vu, ils ne s'arrêtent jamais pile après la ligne. Ils continuent encore de courir sur l'élan. Et là, c'est là, le désamorçage. On ressouffle. Et le corps, là, envoie une petite substance qu'on appelle acétylcholine. Donc, quand on a un coup de stress, on a un coup d'adrénaline. Vous l'avez déjà ressenti ? Petit coup. Ce qui permet de mobiliser très, très vite nos facultés. Penser, porter des choses. Il y a des choses. Il y a des personnes, sous l'effet d'un stress, ont pu porter des choses et puis réagir d'une certaine manière parce que le corps envoyait tous les nutriments nécessaires. Et ensuite, ça redescend. L'acétylcholine. On sent, ah, ça va mieux. Donc ça, c'est un épisode de stress normal, à condition qu'au milieu, il y ait une pause. Donc notre mode d'emploi s'est fait de telle manière qu'entre deux sessions, il faut qu'il y ait une pause. Faire rien. Et là, mon miroir, quand je suis stressée, quand je ne vais pas bien, que je ne me suis pas arrêtée, il va me le faire ressentir. Et là, on a ce schéma-là sur le long terme, donc c'est une séquence de stress ininterrompue. C'est-à-dire que je suis dans l'action. Aujourd'hui, je suis en train de préparer quelque chose. Ensuite, je suis en train de penser à préparer quelque chose pour tout à l'heure. Et encore, et encore, et encore. Donc je fais que ça, je suis dans l'activité, dans l'action, dans l'action, dans l'action. Bien souvent, les personnes qui peuvent faire ça se fatiguent très très vite, et puis pas très efficaces. Brasse aussi un petit peu derrière le fait d'être toujours dans une hyperaction et jamais posée. Donc soit le corps, soit la tête est toujours en train de tourner, tourner, tourner. Au bout d'un moment, on ne tient pas, c'est la chute. Le mode d'emploi, c'est la diapositive précédente, c'est avoir un temps de pause. Pour les personnes qui ont un rythme de vie comme ça, jamais de pause, jamais de pause. Au bout d'un moment, le corps reprend ses droits. Il aura toujours le dernier mot. Donc c'est ce qu'on appelle le burn-out. Stress, on a demandé au corps trop d'efforts, on ne lui a pas donné son droit de repos, et c'est comme le fameux capital jeunesse. On lui a dit, on a dilapidé tout l'argent qu'il y avait sur le compte, tout ce qu'il y avait, et le corps coupe tout. Il dit, là maintenant, le compte est crédit et débiteur. Il n'y a plus de moyens, je coupe tout. C'est comme un artisan, vous ne le payez pas. Il n'y a pas de prestation. Ben, c'est la même chose avec le corps. Le corps va se protéger, va tout couper. Un matin, les personnes se lèvent, ben, elles n'arrivent pas trop à se lever. Les bras sont lourds, les pieds sont lourds. Ça, c'est un grand facteur de vieillissement précoce. Et notre image, quand à l'intérieur, ça ne va pas, on le voit aussi, nous, à l'extérieur. Voilà les zones de stress. Hypo-stress, il n'y a rien du tout. La vie est plate. Bon stress, c'est hyper-stress. Bien sûr, la vie, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Le tout, c'est d'être dans cette zone de bon stress. Voilà. Mais il arrive à certains moments, voilà, on dépasse, parce qu'il y a un mariage, il y a des événements qui arrivent, il y a des déménagements, il y a quelques soucis. Voilà. Mais le plus gros, c'est important d'être dans une zone où notre corps puisse récupérer. Le miroir du mode de vie inadapté. On a vu, sur le plan de mode de vie inadapté, le non-respect de l'activité jour-nuit. On est des êtres circadiens. On est fait pour être en activité la journée et dormir la nuit. C'est mieux. C'est notre mode d'emploi. Tout simplement parce que pendant la nuit, dans notre sommeil, on va se régénérer. Je fais une petite citation de Confucius. « Appliquez-vous à garder en toute chose le juste milieu. » On est fait d'un peu de tout, juste milieu. On est fait aussi à l'image de notre alimentation omnivore, un peu de tout. Activité journée. La nuit, on se repose. Un des accélérateurs, certainement l'un des plus terribles du vieillissement, c'est la sédentarité. Notre mode d'emploi, on a une machine avec des articulations, on est fait pour bouger. On n'est pas fait pour rester en une seule position et pas bouger. Donc, perte de tonus musculaire. Donc, vous avez mon petit bonhomme, à force de rester sans bouger, il se dit maintenant, s'ennuyant, il va se lever, il va faire quelque chose. Mais simplement, comme toutes les articulations sont rouillées, il se fait mal. Donc, du coup, il va se rasseoir. Et c'est un cercle vicieux. Et ça entraîne d'autres choses. C'est qu'après, on n'a plus envie de sortir, on n'a plus envie de faire des activités parce qu'on n'y arrive plus, on a mal. Donc, ça va amener à un repli sur soi. Ça, c'est un accélérateur aussi. Et c'est une des causes aussi de l'isolement de certaines personnes. Ça crée de la dépression. Ça va développer des phobies. Plus je reste toute seule, plus je vais avoir peur d'aller dehors. Diminution des facultés intellectuelles. C'est un muscle qui est à l'intérieur. Donc plus on va l'utiliser, plus il va être vif. Voilà. C'est comme la lecture. Moins on lit, moins on arrive à lire. C'est un muscle. Donc, ça ne fait pas partie de notre mode d'emploi. On est fait pour interagir. On a une bouche pour parler, des oreilles pour écouter. Écouter d'autres personnes. Ça, c'est un facteur de vieillissement. Ça va ? On te suit ? Mon miroir parle de mon alimentation. Ah ! Ça fait aussi partie de notre mode d'emploi. Bien manger. Et manger de manière adaptée. En fonction des pathologies, il faut adapter l'alimentation. Si je suis anémique, je dois avoir une alimentation un peu plus riche en fer. Si je suis diabétique, je dois avoir l'alimentation qui est en face. On le voit bien maintenant. Et surtout, ben, avec l'évolution de notre société. Ce qu'il y a dans notre assiette n'est pas de même qualité que ce qu'il y avait peut-être avant. On a beaucoup plus de produits qui ont été recomposés, pas des vrais aliments. Donc d'autant plus, il faut faire beaucoup plus attention parce qu'on est ce que l'on mange. Alors, avec tout ça, comment est-ce qu'on fait pour bien vieillir ? J'ai quelques pistes. Il y en a encore plein d'autres. Mais en tout cas, celles que je propose, je les ai expérimentées. Elles ont été aussi expérimentées. Et je sais que le miroir nous en parle après. Il m'en parle tout au long de ma vie. La première des choses, c'est la résilience. Vous connaissez ? La résilience, c'est une capacité à passer au-dessus de certaines douleurs. Ce n'est pas dire tout cautionner. Ça veut dire pouvoir passer malgré les difficultés. Et ce mot-là, la résilience, il est employé dans plusieurs domaines. Alors, je ne sais pas si vous voyez l'image, mais là, on arrive souvent en forêt à voir un arbre qui est cassé. Et pourtant, il y a quelque chose qui arrive à revivre, ici. La résilience, c'est une capacité à rebondir. Et ça fait partie du bien vieillir. On connaît certainement tous des personnes, vous pouvez leur parler, 3 mois après, vous le pouvez leur reparler, ils parleront toujours d'un événement qui est passé il y a 15 ans. Ils n'ont pas pu passer au-dessus, et ils sont bloqués dessus. Donc en eux-mêmes, ils souffrent. Et cette résilience se construit à travers les autres. On a besoin d'échanger avec les autres. On a besoin d'interagir avec les autres. Donc quelques définitions de la résilience. En physique, ça veut dire c'est la capacité d'un matériau à revenir à son état naturel après un choc. Donc ça nous parle à nous. En psychologie, voilà, c'est un phénomène consistant à pouvoir se reconstruire après un traumatisme. Ça fait partie, c'est une des clés du bien vieillir, la résilience. Bien vieillir, c'est prendre du temps pour soi. C'est respecter le fait que si je prends soin de l'autre en me négligeant moi, j'entretiens la négligence et pas le soin. On commence d'abord par soi-même. On prend soin de soi. J'ai une personne qui me disait qu'il avait du mal à construire quelque chose avec d'autres personnes, qui était toujours tributaire dans le couple avec une autre personne, et qui associait toujours l'autre personne à son malheur. Et en discutant, je lui commence par t'aimer toi, commence à être heureuse toute seule, et ensuite tu pourras trouver le bonheur avec une autre personne. C'est prendre soin de soi, personne ne le fera pour vous. S'accorder un rendez-vous, ne pas se laisser aller, garder toujours cette belle image, se dire on mérite quand même, on mérite du soin, on mérite de l'attention. Et on le voit bien. Qui c'est qui a déjà vu les émissions de relooking avec Christina Cordula ou d'autres ? Qui c'est qui en a déjà vu ? Vous avez vu les personnes avant et après ? Avant le relooking et après ? Certes, elles sont super bien habillées, mais 100% des personnes, elles se disent « je me sens bien après ». Elles ont plus confiance en elles. Donc l'extérieur a eu un impact sur l'intérieur. Ça fait partie de notre mode d'emploi. Et ça peut créer, ne pas prendre soin de soi, ça peut créer aussi un cercle vicieux, comme tout à l'heure. « Ah ben, j'ai pas envie de prendre soin de moi, j'ai pas envie de me maquiller ou je me maquille pas. Ben non, j'ai pas envie de sortir, je veux pas qu'on me voit comme ça. » Et on rentre dans ce circuit de repli sur soi. « Ah ben non, je veux pas. Ah. » Et on va intégrer des fausses croyances du type « Ah ben non, je ne suis pas bien, ben non, je vais leur faire honte si je sors, je ne suis pas... » Prendre soin de soi. Et tout à l'heure, notre animateur a fait une belle citation sur le mannequin. Être belle, c'est accepter son reflet dans le miroir, tout simplement, être qui on est. Le canon de beauté change d'une génération à une autre, d'un pays à un autre, d'une personne à une autre. Être beau, c'est savoir s'accepter comme on est. Les facteurs pour bien vieillir, je pense que vous en avez entendu parler, c'est le sommeil aussi. Ça fait partie de nos besoins physiologiques, dormir. D'ailleurs, malheureusement, 30% des accidents font partie. 30% des accidents sont du fait d'un manque de sommeil. Donc tout au long de notre vie, le sommeil va changer, mais par contre, il est indispensable. C'est un outil indispensable à notre bien-être. On est obligé de s'arrêter, on est obligé de dormir. Sans ça, toutes nos facultés sont erronées. On ne voit pas les choses de la même manière. On voit bien, laisse-moi tranquille, j'ai pas dormi cette nuit. Ah oui. Une même situation, après une nuit de sommeil et une nuit sans sommeil, on ne va pas la voir de la même manière. Donc, ça nous impacte et ça va impacter nos relations avec les autres. Qu'est-ce qui est important pour continuer à bien vieillir, mettre en place des choses? C'est la prévention. On ne peut pas prévoir l'imprévisible. Ce n'est pas possible. Par contre, on sait qu'il y a des choses imprévisibles. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va s'entourer de professionnels. Ici, on peut se rapprocher de professionnels de soins, anticiper les coups durs, donc soit au niveau médecine, des préventions, des scanners, des coloscopies, des choses comme ça. Tout le système donc, que l'État nous a mis en place pour le bien vieillir, c'est en profiter. Ensuite, prévoir le plus longtemps possible son autonomie. Se préparer pour être paré. Ça, c'est important. Et en fait, du fait que je prends une bonne assurance, ou je sais qu'il y a telle personne qui peut s'occuper de ceci ou de cela, juste ça, ça va me permettre d'être plus apaisé. Et ça fait partie de bien vieillir, ça nous évite des inquiétudes. On se dit, bon, bah, s'il arrive quoi que ce soit, on ne peut pas l'éviter, mais au moins, il y a tel et tel organisme, l'assurance, Groupama, qui est là pour moi. Voilà. On ne peut pas s'empêcher de vieillir. Ce qui est naturel n'est pas stoppable. Et c'est illogique, c'est un non-sens de vouloir arrêter ce qui est naturel. Notre mode d'emploi est fait comme ça. Donc c'est naturel de vieillir, mais par contre, on n'est pas obligé de vivre en vieux. On a un âge biologique, ça c'est nos artères. Mais ensuite, dans notre tête, il n'y a pas d'âge mental. Le meilleur âge, c'est quand on est en harmonie avec nous-mêmes. Vous connaissez cette dame? Les Russes ont voulu nous l'apprendre. Jeanne Calment. Je me suis beaucoup intéressée lors de mes différentes interventions sur l'état d'esprit des gens qui ont bien vieilli. Les centenaires, comment est-ce qu'ils sont arrivés jusque-là? Ils avaient pas mal de points communs. Malgré le fait qu'ils venaient de continents différents, origines différentes, classes sociales aussi différentes, ils avaient des points communs. La résilience. Jeanne Calment disait « Il n'y a pas d'épreuve insurmontable, il suffit à chaque fois de trouver une solution. » Ça veut dire « Il faut s'adapter. » Ce n'est pas la solution, celle que l'on aimerait, mais c'en est une. Et si on reste bloqué sur ce qu'on veut et on ne s'adapte pas, on va dépérir. D'ailleurs, les organismes qui s'adaptent, ils vivent plus longtemps. On a vu sur certains microbes, les vaccins ne font plus rien. Ils se sont adaptés, ils vivent plus longtemps. Le point commun donc, de ces centenaires, c'était la résilience. Donc à l'intérieur, ce que je vous dis, mon miroir, ce qui me renvoie à l'intérieur, a un impact sur ma qualité de vie extérieure. L'alimentation, ce sont des personnes, qui mangeaient juste ce qu'il fallait. Elles respectaient leur corps, pas de trop, pas de peu, mais vraiment juste. Une bonne alimentation et un bon sommeil. Toutes. La philosophie du bien vieillir. Mon miroir me renvoie bien ce que j'ai à l'extérieur et ce qu'il y a à l'intérieur. Et comment je sais qu'à l'intérieur, ça ne va pas? C'est parce que je vois une gêne, je vois quelque chose qui ne va pas. Alors, une des philosophies du bien vieillir, c'est s'adapter au remaniement identitaire. Qu'est-ce que c'est le remaniement identitaire? Ici, on a des collégiens et des lycéens. Bien ça? Avant, vous étiez collégien, ensuite vous devenez lycéen. Pour les personnes, vous allez devenir jeune homme, jeune femme. On rechange déjà. On passe après mineur, majeur. Ensuite, on est compagnon, compagne de quelqu'un. Épouse, mari, ça change. Pour ma part, je suis devenue mère. Mon identité a changé. J'ai un autre état d'esprit. J'espère devenir grand-mère et arrière-grand-mère, je l'espère. Et là aussi, ça va changer. Je partage avec vous une petite histoire où il y a eu un problème de remaniement identitaire. Donc c'était dans un repas, famille, il y avait plusieurs personnes. Et puis, à une des petites, je lui donne quelque chose, plus que je lui donne, je lui dis, tiens, va donner ça à ton grand-père. Va donner ça à papy, à ton grand-père. Et il était là et il me dit, je ne suis pas son grand-père. Ah oui, mais t'es qui? Il me dit, je suis le père de sa mère. C'est pas la même chose. Il y avait un petit problème. La petite, elle avait 2 ans et demi, donc je me dis, bon, il n'a pas digéré encore d'être grand-père. Et dans sa tête, c'était un jeune. Voilà, c'est le petit décalage. Aujourd'hui, il est très fier d'être grand-père 9 fois, il me semble. Mais il a fallu un petit temps. Il y a des personnes qui mettent le frein à main pendant des années sur leur vie, se disent, ben, ils ont 20 ans pour toujours. C'est bien dans la tête, mais il y a des choses qui ne sont pas... qui ne peuvent pas être transposées au fur et à mesure du temps, ne serait-ce que pour les capacités physiques. S'il y en a qui arrivent, c'est très bien. Alors, une bonne hygiène de vie, c'est indispensable. C'est simple, mais c'est indispensable. On ne peut pas aller loin si on ne respecte pas son mode d'emploi. Ce n'est pas possible. On a besoin des nutriments nécessaires pour fonctionner. Et on a malheureusement bien vu ce qui se passe dans des pays où il n'y a pas tout ce qu'il faut. L'état de santé dans lequel sont les gens. Une ouverture d'esprit. On est fait pour communiquer avec les autres. Pour voir la vieillesse comme une chance, une libération, avec moins de soucis, plus de temps. Tout au long de notre vie, chaque jour, chaque minute, on vieillit à chaque, quelques secondes, toutes les secondes, à chaque instant. Donc, c'est un mélange d'images qu'on a de nous-mêmes, de s'accepter au fur et à mesure du temps, et en même temps être ouvert. En paix avec le passé, là aussi. Aujourd'hui, je peux avoir des amis, je peux avoir une bonne santé, mais s'il y a quelque chose qui me tracasse encore avec le passé que je n'ai pas réglé, mon miroir va me le rappeler. Il va me dire, il y a des choses qui ne sont pas réglées. Donc c'est vraiment un travail qu'on a à faire sur nous-mêmes pour continuer ce voyage dans la meilleure disposition. Et une chose qui est importante et qui fait partie aussi de notre fameuse pyramide, c'est la transmission entre les générations. On l'appelle transmission intergénérationnelle. Mais à la base, c'est dans notre ADN. On transmet bien nos gènes, on transmet nos caractères. Et même pour les enfants qui vivent dans des familles, des enfants adoptés, on leur transmet des traits de caractère. Et la transmission, ça fait partie de nous, de notre société. On transmet un héritage. On transmet aussi des recettes de famille. J'ai des recettes qui sont propres à ma grand-mère ou à ma mère. Et j'en ai aussi, que j'espère que mes filles vont les utiliser. Mais c'est ce besoin de ne pas garder pour nous. Ça sert à quoi? J'ai besoin d'aller leur transmettre. Il y a des personnes qui font des livres pour transmettre leur histoire, transmettre leur vécu. Garder pour soi un trésor, c'est pas enrichissant. C'est dans le partage qu'on s'enrichit le plus. D'ailleurs, la plupart du temps, même aujourd'hui, les joueurs de foot, une fois qu'ils ont fini leur carrière, qu'est-ce qu'ils font? Entraîneur, ils vont transmettre leur savoir. Ça fait partie de notre habitude. Ça fait vraiment partie, c'est de partout. J'ai eu la chance d'avoir été élevée par ma grand-mère. Bonne partie de mon enfance, je l'ai fait avec elle. J'ai eu la chance, ça je l'ai vu qu'après, pour ceux qui n'ont pas eu ma chance, d'avoir grandi avec une personne d'une autre génération, mais d'avoir appris des choses, mais d'une valeur incommensurable. L'intergénérationnel, c'est un nouveau mot. C'est un concept d'aujourd'hui, tout simplement parce que les personnes vivent plus longtemps. Et aujourd'hui, on est dans un schéma où les grands-parents, les seniors, les aînés sont encore actifs. Ils font encore des choses. Et avant, on n'avait pas cette conjugaison des générations. Les aînés étaient dans un endroit et puis les autres vivaient leur vie, tout simplement. Mais aujourd'hui, avec l'avancée de nos technologies, maintenant, tout le monde s'entremêle. C'est ça, l'intergénération. Et c'est une source, c'est un puits de solutions, c'est un puits de savoir, c'est un puits d'échange. Parce qu'entre deux générations, parfois, on ne parle même pas la même langue. Pourtant, le même vocabulaire, mais on ne se comprend pas. Tout simplement parce qu'on n'a pas les mêmes filtres, on n'a pas les mêmes cultures, on n'a pas les mêmes choses. D'ailleurs, je pense que je l'ai fait avec ma petite sœur. J'ai une petite sœur qui a 14 ans d'écart avec moi. Et je parle pour moi. Chaque génération pense qu'elle est plus intelligente que la précédente. Et pense même qu'elle est plus sage que la suivante. C'est ce que j'ai dit. Ce que je disais, oui, moi, à mon époque, c'est pas pareil. Moi, je suis la génération du Club Dorothée. Donc, fatalement. Ça, c'est propre à chaque génération. Mon père me parlait d'une génération qui, pour moi, c'est un rêve, ne serait-ce que pour l'emploi. Il me disait, je quittais un emploi le matin et je traversais la route et j'en avais un. Je lui dis, c'est pas vrai, ça n'existe pas, ça. Et si, il a vécu aussi ça. Donc c'est une autre génération. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir croiser ces générations. J'ai eu aussi en cabinet une personne que j'accompagnais pendant 1 an et demi, et elle m'a fait voyager. Elle m'a parlé des histoires d'après-guerre, de son vécu, comme elle l'a perçu. C'est dans aucun livre. Aucun livre. J'ai su des choses, en plus elle est de mon village, j'ai su des choses propres à mon village, si elle ne l'avait pas transmis, c'était une histoire qui était perdue. Merveilleux. Elle m'a fait voyager, j'ai appris comme jamais. Et c'est important. Et travailler, donc, et notamment dans l'intergénérationnel, tout comme fait notre association R, c'est une solution, c'est vraiment une solution pour la communauté. On a une meilleure intégration de toutes les forces, plus ou moins jeunes, de tout le monde. Pour les jeunes, la première chose, c'est le savoir-être envers les seniors. Et pour les seniors, ça leur permet une amélioration de la qualité de vie. Tout simplement parce qu'ils ont contact avec une autre génération. Ils peuvent parler différemment. Donc l'un va instruire l'autre. Ça allait dans les deux sens. En Belgique, il y a une association qui aide les jeunes en difficulté pour trouver un emploi. Donc tous les seniors qui étaient des RH, les coachs, ça devient leurs tuteurs. Donc ils ont une mine d'or, un formateur, voilà, toujours dans la transmission. Et ça, c'est merveilleux. Pour moi, ceux qui ont un autre vécu, c'est un livre. C'est toujours très intéressant de pouvoir échanger avec personnes qui ont un passé, qui ont une histoire. La paix. P-A-X. Oui. Accepter de vieillir. Et oui, comme c'est naturel, il faut accepter. Et c'est important d'accepter. Et dans tout changement, à la fin, c'est l'acceptation. Que ce soit pour des deuils, pour des changements, des transitions, à la fin, c'est l'acceptation. Refuser de vieillir et puis se charcuter le visage dans tous les sens, ça n'a plus de sens. Et c'est dans l'acceptation que les choses sont beaucoup plus simples. Regarder derrière soi avec bienveillance. La bienveillance et la paix. C'est très important parce que là, mon miroir va m'en parler. Il va me dire, y a des choses qui ne vont pas. Il faut les régler. N'essayez pas de comprendre chaque chose. Certaines n'ont pas besoin d'être comprises. Juste accepter. Ça fait partie aussi du système de résilience. Voici notre mode d'emploi. Ça s'appelle l'alternance. Un peu de tout. On a besoin de nuit pour dormir et de jour pour être en activité. Il y a des moments pour manger et il y a des moments pour jeûner. On ne peut pas manger de 8h du matin jusqu'à 18h. Ce n'est pas possible. On n'est pas fait pour ça. L'alternance. Si on respecte notre mode d'emploi, il y a pas mal de choses qui vont aller beaucoup mieux. D'ailleurs, on le voit bien, les personnes qui perdent du poids se sentent mieux. Elles arrivent à mieux manger, elles se sentent mieux. Parce que le corps reçoit ce qu'il a besoin, donc il va donner aussi ce dont il a besoin en termes de bien-être aux personnes. Il y a des moments pour faire travailler son cerveau. Et il y a des moments où il ne faut plus. Il faut le laisser. Il faut le laisser aller. Il y a des moments où il faut faire travailler le corps. Et à d'autres moments... Ou faire la feignasse. C'est bien aussi. Tout est dans le temps, en quantité. On ne peut pas être feignasse du 1er janvier au 31 décembre. Par contre, c'est bien de l'être de temps en temps. Parce que ça fait partie de notre mode d'emploi, de lâcher prise, de tout arrêter. Voilà, équilibrer sa vie. Donc en résumé, créative, prévention. Oui, c'est important, parce qu'il y a des choses, on ne peut pas les prévoir. Mais si je peux prévenir, c'est quand même mieux. Gérer son temps. On a un temps pour tout, et donc pour soi, l'intégrer dans le calendrier. Alors il y a des outils. Je suis sophrologue, je vais vous parler de la sophrologie, mais il y en a plein d'autres. Et le plus important, c'est qu'ils vous correspondent. C'est vraiment très important. La sophrologie, donc, je vous disais, c'est une science humaine qui va servir à harmoniser la tête et le corps. Mais ça se base aussi sur 3 points. Donc la respiration, c'est la première chose qu'on fait en venant au monde et la dernière qu'on fait en partant. La détente corporelle, parce que je vais me tendre. Il y a des personnes, toute leur vie, elles sont tendues, elles ont des problèmes de dos. Ce que je vous ai, elles entendent quelque chose, mais tout de suite, elles vont se braquer. Et elles vont être en tension. La sophrologie, on apprend à relâcher le corps et à ressentir le corps. Visualisation positive. Je peux voir la bouteille à moitié pleine. Il y a des personnes qui voient tout le temps à moitié vide. C'est fatigant. Et aussi, schéma corporel. J'arrive à me voir évoluer. J'arrive à voir mon corps qui change. J'arrive à voir les changements de mon corps. Bien sûr, on voudrait tous avoir un certain dynamisme, le même qu'on avait à 20 ans, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Donc on s'accepte comme on est, au fur et à mesure. Et il y a quelque chose que je me suis rendu compte avec le temps, c'est qu'aujourd'hui, là, je me sens beaucoup mieux qu'à 20 ans. Beaucoup de personnes disent, presque à 40, on se sent beaucoup mieux qu'à 20. Certes, il n'y a plus le même physique, mais dans la tête, c'est tellement plus simple parce qu'on a réussi à faire abstraction à pas mal de choses. Voilà, donc ces trois principes fondamentaux. On va rétablir une bonne relation entre la tête et le corps. La sophrologie est un outil, ne serait-ce qu'aussi au travail. C'est pour ça que je l'utilise dans mon centre de formation, le bilan de compétences. J'accompagne les personnes dans ce sens-là. Tenir compte de la réalité objective, ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. D'ailleurs, les personnes qui tombent en burn-out, c'est parce qu'elles disent oui à tout. Il y a des choses qu'elles ne peuvent pas faire, mais ça ne fait rien. Elles vont le faire. Donc c'est important de pouvoir savoir ce qu'on peut faire, jusqu'où on peut le faire. En résumé, être mieux avec soi pour mieux être avec les autres. Et c'est le même exemple que je vous ai donné pour la personne qui devait d'abord être heureuse elle-même toute seule pour être heureuse et bien avec les autres. Ça commence toujours en interne. Toujours, toujours. On dit bien charité bien ordonnée commence par soi-même. D'abord, on commence à se gérer. Nous-mêmes. Alors, acquérir un savoir plus juste, donner de l'amour, c'est indispensable, ça fait partie de notre pyramide des besoins. Mon miroir le saura, me le dira. Tu n'en donnes pas. Certaines personnes qui n'arrivent pas à aimer, n'ont pas accès au bonheur. Aimer, être bienveillant avec les autres, nous donne une posture de confiance. C'est très important. Apprendre à s'écouter honnêtement. S'écouter honnêtement, soi-même, et notre miroir nous le dit. Oui, j'ai pas bien fait. Et s'admettre qu'on a mal agi, mais savoir aussi se pardonner. Mais c'est s'écouter nous-mêmes. Mon miroir, le miroir nous rappelle que nous sommes représentés par nos actes et nos pensées. Alors je suis là devant lui, mon miroir, mais il va me rappeler ce que j'ai fait, ce que j'ai pensé, comme je suis. C'est aussi mon garde-fou. On dit bien, il faut que j'arrive à me regarder dans le miroir. Quand on dit, il faut que j'arrive à me regarder dans le miroir, c'est bien parce que je dois agir en fonction de mes valeurs. Il va me rappeler que ce qui est à l'intérieur n'a pas été respecté à l'extérieur. C'est pour ça qu'on est mal. Mais si j'arrive à harmoniser le tout, il peut me donner un conseil. Mon miroir m'invite à me réunir avec moi-même. Il peut me dire, tiens, prends ta tête, l'intellect, et va le réunir avec le cœur. Toi et moi, on a besoin d'un temps calme. Un endroit où on peut se poser, discuter, tous les deux. Et si je le fais là maintenant, je prends ma tête, je prends mon cœur, qu'est-ce qu'il me dit ? Il me dit merci beaucoup de m'avoir écouté, c'était vraiment, vraiment, vraiment formidable. Je vous remercie beaucoup. Alors, je reste encore une partie de la journée ici. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser maintenant. Ou alors, je suis juste là. N'hésitez pas à venir me voir, me poser des questions, partager des choses. C'est avec plaisir que je vous accueillerai. Merci beaucoup.
Il y a peut-être des questions quand même qui peuvent venir. Bon, en tout cas, j'en ai une. On a parlé du bien vieillir, mais évidemment, on a été bien au-delà. Et qu'est-ce qui doit être entendu par les adolescents là, qui ont entre 14 et 18, 20 ans dans le bien vieillir ? Parce qu'évidemment, ils sont en train de vieillir, même si jamais ils n'en ont pas la même conscience que lorsqu'on a 70 ans.
Alors, si j'avais quelques conseils à donner en grande sœur, ça serait que prenez les choses de manière un petit peu légère. Je sais qu'à l'adolescence, les problèmes, les adultes vont les voir comme des problèmes anodins, mais je sais que c'est important parce qu'à l'adolescence, moi-même, j'ai vécu des choses un petit peu difficiles. Mais avec le recul, j'aurais dû apprendre à dire c'est pas grave. Donc voilà, si j'avais quelque chose à dire, c'est prenez soin de vous. Il y a des choses, en fait, vous avez tellement de belles choses à vivre à côté que là maintenant, profitez-en. Prenez soin de vous, faites du sport. Et quand il y a un problème, ce n'est pas la fin du monde. Vous avez encore plein de belles choses à vivre à côté. Et c'est développer la résilience, se dire, ce n'est pas exactement ce que je veux, mais il y a d'autres solutions.
Voilà. Merci. D'autres questions ?
Nous avons bien perçu l'influence du stress, du lien social, de la nourriture. Mais pour faire une belle photo, il faut parfois une belle lumière. Vous n'avez pas parlé de l'exposition à la lumière. Un peu de soleil, c'est comme le Beaujolais, il en faut un petit peu, mais à consommer avec modération. Quel est votre point de vue sur l'influence de notre environnement sur notre corps et notre esprit ?
Alors, effectivement, la lumière, tant que telle, va développer des vitamines sur notre peau. C'est bien pour ça qu'on doit être en activité la journée et dormir la nuit. Et notre environnement, donc le temps qui m'était imparti est trop court pour que je puisse développer le sujet, mais en parlant de la nourriture est issue de notre terre. Et donc en fonction des actions politiques qui vont être menées, la qualité de ce qu'on va manger va en dépendre. Voilà, en fonction, donc l'environnement est très important. Si on a une politique qui nous donne des produits chimiques sur nos produits, ils vont revenir sur notre assiette. Mais effectivement, bien vieillir, c'est aussi entretenir notre logeur, qui est ici la terre. L'environnement a une très grande importance, notamment sur la pollution, ce qu'on respire, et une autre pollution, c'est la pollution visuelle, télévisuelle. Là aussi, ça dégrade et ça augmente notre stress. Quand on se lève le matin avec des vols, des viols, des casses, des choses qui se passent mal, on commence la journée avec un moral qui n'est pas au top. Voilà. Donc ça a une énorme influence, bien sûr.